résultat, la présentation que nous allons commenter durant cette conférence téléphonique, un fichier Excel reprenant les chiffres clés historiques du groupe et de ses métiers, et les états financiers consolidés. Cette présentation contient des informations et des déclarations à caractère prévisionnel relatives au groupe Bouygues et à ses activités. Ces éléments prospectifs reflètent des objectifs fondés sur les attentes ou les estimations actuelles de la direction générale du groupe. Ces informations sont soumises à un certain nombre de facteurs et d'incertitudes qui pourraient les faire différer sensiblement de ceux qui sont décrits aujourd'hui. Je passe maintenant la parole à Monsieur Martin Bouygues, président directeur général du groupe.
Merci Karine. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre participation à cette conférence téléphonique qui se tient, compte tenu des circonstances, à distance. Je vais à présent commenter les résultats du groupe avec Olivier Roussat, Pascal Granger ainsi que les patrons des cinq métiers composant les trois activités du groupe. Nous répondrons à l'ensemble de vos questions à l'issue de notre présentation. Démarrons par la slide numéro 4, par la présentation des éléments clés du semestre. Le premier semestre est bien évidemment marqué par la pandémie de Covid-19. Toutefois, en dépit du fort impact de la crise sanitaire, le groupe affiche au deuxième trimestre un résultat opérationnel courant positif, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle. Par ailleurs, le groupe est bien armé pour traverser cette crise grâce à une structure financière particulièrement solide et une liquidité qui se maintient au niveau élevé de 11,1 milliards d'euros à fin juin. Nos activités de construction disposent d'un carnet de commandes record qui offre une bonne visibilité sur l'activité à venir. Fait marquant du deuxième trimestre 2020, Colas affiche un résultat opérationnel courant positif grâce au redémarrage rapide de ses activités. Enfin, Bouygues Télécom connaît, depuis la fin du confinement, une dynamique commerciale soutenue. Le chiffre d'affaires services et l'EBITDA après loyer sont en forte croissance de respectivement 8 et 9% sur un an. Je vous rappelle que Bouygues Télécom a signé avec le Crédit Mutuel un protocole d'exclusivité en vue de l'acquisition d'EIT, premier MVNO du marché français, et de la signature d'un partenariat de distribution. Tout cela est de nature à soutenir la croissance de notre activité télécom dans les prochaines années. Compte tenu des éléments connus à date, et en particulier la forte baisse du roaming, Bouygues Télécom révise sa guidance pour 2020, suspendue depuis avril dernier. Passons donc aux chiffres clés du groupe, tels que présentés en slide 5. Comme attendu, la crise sanitaire a eu un fort impact sur les résultats semestriels du groupe. Le chiffre d'affaires est en baisse de 15% sur un an, soit moins 2,7 milliards d'euros, expliqué intégralement par la crise du Covid, dont nous avons estimé l'impact à environ moins 2,8 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires recule fortement en France de 19%, en raison d'un confinement strict suivi d'un redémarrage progressif de nos activités. À l'international, il baisse de 10%, impacté par le ralentissement de l'activité et le confinement dans plusieurs pays où le groupe est présent. La crise sanitaire explique intégralement le recul de 585 millions d'euros du résultat opérationnel courant au premier semestre 2020. Hors Covid, il aurait été en hausse d'environ 65 millions d'euros par rapport à l'an dernier. Après avoir atteint un point bas en avril, le résultat opérationnel courant du groupe est redevenu positif à compter du mois de juin. Enfin, le résultat net par du groupe est également en fort repli dans ce contexte. Comme nous l'avons évoqué en début de présentation, le résultat opérationnel courant du groupe est positif au deuxième trimestre 2020 à 110 millions d'euros, ce dont évidemment je me réjouis. Cette performance, visible en slide 6, est liée à la forte réactivité des métiers, en particulier Bouygues Télécom, dont le résultat opérationnel courant s'améliore sur un an, tiré notamment par la croissance de sa base client ainsi que des ABPU. TF1, qui réalise des économies significatives sur le coût de ses programmes, Ecolas qui a redémarré rapidement ses chantiers dans la route, notamment en métropole et au Canada. Regardons maintenant la liquidité du groupe en slide 7. Comme vous le voyez, Bouygues dispose à fin juin 2020 d'une trésorerie disponible élevée de 11,1 milliards d'euros. Elle est en forte augmentation de 2,7 milliards d'euros par rapport à fin juin 2019. Elle se compose de 4,4 milliards d'euros de trésorerie et de 6,7 milliards d'euros de lignes de crédit non utilisées, dont 6,3 milliards d'euros sans covenant. L'échéancier de remboursement est très bien réparti et intègre le nouvel emprunt obligataire d'un milliard d'euros réalisé le 7 avril dernier. Je vous précise également que le groupe a remboursé 1 milliard d'euros d'obligations en juillet. Ce montant est donc toujours inclus dans l'échéancier arrêté au 30 juin. Cette position élevée contribue à la solidité de la structure financière du groupe présentée en slide 8. À 3,9 milliards d'euros, la dette nette au 30 juin 2020 s'améliore par rapport au 30 juin 2019. Elle intègre notamment l'impact positif d'Alstom lié aux dividendes perçus et à la cession partielle de notre participation en septembre 2019. Cette dette nette à fin juin ne prend pas en compte deux éléments. Tout d'abord, le versement d'un dividende de 1,7 euros par action qui sera proposé à l'Assemblée générale de la semaine prochaine pour un paiement le 11 septembre. Et enfin, l'acquisition d'EIT par Bouygues Télécom qui devrait se concrétiser au quatrième trimestre de cette année. Je vais maintenant passer la parole à Olivier Roussat pour une revue détaillée de la performance de nos activités.
Merci Martin. On va donc parcourir l'ensemble des activités du groupe et on va commencer par les activités de construction. Je vais directement en slide 11 pour regarder l'activité commerciale. Le carnet de commandes des activités de construction s'élève à un niveau record à 35,7 milliards d'euros à fin juin 2020. Un niveau record donc qui nous donne une bonne visibilité sur l'activité future. Il est clair que ce carnet est constitué de deux éléments. D'une part, l'acquisition de nouvelles affaires qui a été faite au cours du deuxième trimestre, et puis la moindre consommation du carnet qui s'est déroulée du fait du confinement durant le deuxième trimestre. Ce carnet de commandes, il progresse dans les trois métiers, il progresse en particulier chez Bouygues Construction, en lien avec une augmentation significative de 18% de la prise de commande sur le semestre. Chez Bouygues Immobilier, avec la vente en bloc de 1408 lots à la Caisse des dépôts et consignations au deuxième trimestre 2020, enfin, chez Colas, on a un carnet de commandes qui est en hausse plus limité à seulement 1%, freiné par le recul de la prise de commande de la route métropole en raison de la pandémie d'une part et en raison du décalage des élections municipales puisque les exécutifs municipaux n'ont été constitués que pendant l'été et qu'ils contribuent à alimenter le carnet de commandes. Enfin, la part du carnet de commandes de Bouygues Construction et de Colas réalisée à l'international continue de progresser. Elle atteint 63% contre 61% il y a un an. Je passe en slide 12. On a illustré sur cette slide cette bonne dynamique commerciale avec plusieurs projets significatifs qui ont été remportés au deuxième trimestre 2020. Je ne vais pas tous les commenter. Je mentionnerai les deux projets dans le rail, qui est la réalisation d'un tronçon de la ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni, et puis un projet pour Colas Rail, qui est le remplacement de l'alimentation électrique d'une ligne de métro léger à Singapour. Ajoutons dans le domaine des énergies renouvelables le projet de construction des embases, des 71 embases du futur parc éolien en mer de Fécamp, qui est indiqué sur la partie haute, en haut à gauche pardon, de la slide. Passons maintenant aux résultats financiers. Je suis en slide 13. Bon, comme attendu, on a un impact de la pandémie de Covid-19 qui est très significatif au premier semestre de cette année. Au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires des activités de construction est en repli de 19%, soit moins 2,6 milliards d'euros. Le résultat opérationnel courant est en repli de 509 millions d'euros. Ces baisses sont totalement imputables à la crise sanitaire, dont on vous a rappelé les impacts dans le cartouche en bas à droite de la slide. On considère que l'impact en termes de chiffre d'affaires est de moins 2,460 milliards et que l'impact du ROC est de 530 millions d'euros. Alors la France a été particulièrement touchée en raison d'une part d'un confinement extrêmement strict suivi d'un redémarrage progressif des activités et puis également touchée par le décalage des élections municipales qui a comme conséquence une moindre activité dans le domaine de la route et puis un gel des permis de construire pendant cette période qui gêne l'activité immobilière. La baisse à l'étranger est moins forte, même si l'activité a parfois été ralentie ou même stoppée dans certains pays dans lesquels nous étions présents. Après le point bas que nous avons eu en avril, on a une situation qui s'est progressivement améliorée et des activités de construction qui sont revenues à une situation profitable à compter de juin. Cette amélioration a été poursuivie tout l'été et elle est notamment le reflet de la gestion proactive de la crise sur laquelle je vais revenir dans la slide suivante. Je suis maintenant en slide 14. Je vous rappelle que le Covid, la première exposition du Covid pour le groupe Bouygues s'est faite à Hong Kong à partir du mois de février, puisque nous avions eu le cas numéro 16 d'infection à Hong Kong qui nous a entraîné la fermeture des opérations de Hong Kong pendant 14 jours. Nous avions pu redémarrer avec un équipement de gel, de masques qui était fourni à la totalité de nos collaborateurs. Nous n'avions pas eu d'autres contaminations qui avaient pu se produire. Nous avons réutilisé cette expérience pour organiser la reprise des activités françaises que nous avons pu reprendre dès le 15 avril, c'est-à-dire bien avant la fin du confinement, et nous avons étendu cette expérience aux autres pays qui étaient touchés par un arrêt d'activité. On n'a qu'une seule expérience qu'on a pu donc réutiliser dans le monde entier. À mi-juillet, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la quasi-totalité des sites étaient réouverts en France, avec un rythme d'avancement qui était proche de celui d'avant-crise. À l'international, l'activité est revenue proche de la normale dans de très nombreux pays. Le dernier pays qui nous posait problème, c'était Singapour, qui, mi-août, a repris progressivement son activité. L'été a par ailleurs été propice à un rattrapage partiel d'activité. Nous avions fait le choix pendant le confinement de privilégier les prises de congés de nos collaborateurs pour autoriser plus de temps disponible pendant l'été et pour pouvoir rattraper une partie de l'activité sur le T3. Alors, en même temps qu'il y avait le redémarrage du chantier des métiers, on cherchait à limiter les impacts de la crise. D'une part, en négociant avec les clients le partage des surcoûts liés au Covid, et puis d'autre part, des mesures d'économie qui ont été prises, des mesures d'économie sur les consultants, sur les frais de déplacement et sur les frais de formation. Slide 15, cette pandémie amène les différents gouvernements à positionner des plans de relance pour faire repartir les économies. On vous a donné sur cette planche les parts de chiffre d'affaires que nous réalisons dans chacune des zones dans lesquelles des plans de relance sont prévus et connus à date. Alors les chiffres sont variables. Typiquement, quand on prend le plan américain, les républicains sont favorables à un plan de 1 000 milliards. Les démocrates, s'ils sont élus, sont favorables à un plan de 3 000 milliards. On verra bien quelle est l'issue des élections présidentielles. Vous avez les 100 milliards qui vont être annoncés dans le détail la semaine prochaine en France. Et puis les 750 milliards d'euros de l'Europe, dont une partie significative, environ 30%, seront consacrés à la transition énergétique. Il est clair que les différents plans de relance vont faire la part belle aux solutions bas carbone et le groupe est bien positionné avec un très large portefeuille de solutions bas carbone pour savoir répondre aux opportunités qui vont se créer dans ces plans de relance. On vous a remis sur cette slide, je suis en slide 16, les quatre domaines dans lesquels on intervient avec un jeu de solutions. Le domaine de la construction durable avec notamment les enrobétiers, la chimie verte de la route, les structures bois. Le domaine des énergies renouvelables avec tout ce qui va toucher à la gestion du stockage, les fermes solaires, les rénovations de centrales de production d'énergie, tout ce qui touche à la rénovation des bâtiments avec les solutions de type REAGREEN pour les réhabilitations du tertiaire. Les bâtiments à énergie positive hybride que nous avons créés, et puis tout ce qui touche à la mobilité propre, notamment tout ce qui va toucher au niveau des infrastructures de transport en commun, les aménagements de pistes cyclables, etc. Alors, de façon très concrète, et je suis en page 17, slide 17, On vous a rappelé quelques exemples de réalisations bas carbone, je ne vais pas toutes les citer. Je citerai l'immeuble Sensation à Strasbourg, qui a été lauréat du prix national de la construction bois en 2020. Piolenc, qui est de la plus grande centrale solaire flottante d'Europe. ABC, qui est un immeuble qu'on a livré à Grenoble, qui est le premier bâtiment qui vise l'autonomie en eau, en énergie et qui optimise la gestion de ses déchets. Et puis, on a fait une dernière, sur la dernière partie, la partie droite de la slide, le Wattway Pack, qui est la solution utilisée en Wattway pour permettre l'éclairage des voies de transport, comme ici c'est le cas avec la piste cyclable du canal de l'Ourcq. Je vous propose maintenant de passer à TF1, dont vous avez pris connaissance le 29 juillet. Je vais donc aller assez vite. Les résultats du premier semestre de TF1, ils démontrent à la fois les effets de la crise sanitaire sur l'activité, et d'autre part, la capacité de TF1 à savoir s'adapter rapidement dans sa programmation et dans la gestion de ses coûts pour limiter le plus possible l'impact sur ses résultats. Le chiffre d'affaires du premier semestre, il s'élève à 884 millions d'euros. Il est en recul de 23% sur un an, soit moins 261 millions d'euros, qui s'explique très largement par l'impact Covid que nous avons estimé à 250 millions d'euros sur la période. Ce chiffre d'affaires est subi d'une part l'annulation des campagnes de publicité qui ont été réalisées pendant les temps de confinement, le report d'un certain nombre de campagnes, et puis l'arrêt des tournages avec un redémarrage très progressif des tournages en France et à l'étranger. Le résultat opérationnel courant du premier semestre, il s'élève à 68 millions d'euros, en baisse de 95 millions d'euros, imputable intégralement à la Covid-19. Cette baisse est plus limitée que celle du chiffre d'affaires parce qu'elle traduit les efforts qui ont été déployés pour réduire le coût de la grille avec une offre de programme optimisée qui a permis à TF1 de réaliser 107 millions d'euros d'économies sur le coût des programmes des 5 chaînes en clair, c'est-à-dire pratiquement un quart du coût de la grille qui a été économisé, ce qui est particulièrement notable dans une économie de coût fixe. Depuis la fin du confinement, la tendance à la baisse des revenus publicitaires que l'on avait observé est en train de s'atténuer progressivement avec le retour des annonceurs. Toutefois, compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la pandémie et sur ses conséquences, TF1 a renoncé à ses objectifs 2020 et 2021. Je vous propose maintenant de passer à Bouygues Télécom en slide 21 qui affiche une bonne performance commerciale depuis la fin du confinement. Bouygues Télécom a été le premier opérateur à rouvrir toutes ses boutiques en dehors des centres commerciaux dès le 11 mai, dans le strict respect des mesures sanitaires. Nous avions utilisé pour Bouygues Télécom un certain nombre de mesures que nous avions utilisées dans les chantiers de Bouygues, ce qui nous a permis d'être prêts et de bénéficier du premier jour de déconfinement pour la réouverture. Depuis cette réouverture, le niveau de souscription est plus élevé qu'avant la crise, tant dans le mobile que dans le FTTH. Dans le mobile, la crainte que nous pouvions avoir, c'était une modification de la structure du marché avec un nombre de clients premium qui auraient cessé d'aller en boutique pour aller sur Internet. Et finalement, ce n'est pas du tout ce que l'on voit. On voit le retour des clients premium en boutique qui se traduit par un fort niveau de transformation en acte d'achat. Et au premier semestre, la part du segment premium qui s'est donc maintenue par rapport au segment Simony Web-only. Ainsi, le parc forfait mobile hors machine to machine atteint 11,8 millions de clients à fin juin 2020. Il est en hausse de 274 000 nouveaux clients depuis fin 2019, dont 161 000 sur le seul deuxième trimestre. Comme attendu, en sortie de confinement, la bascule du marché fixe est en train de s'opérer depuis l'ADSL vers le FTTH, puisque les clients ont bien noté la différence de qualité de débit qui était offerte. Le parc client FTTH de Bouygues Télécom atteint 1,2 million de clients à fin juin, grâce au gain de 210 000 clients depuis fin 2019, dont 93 000 au deuxième trimestre. Et le taux de pénétration FTTH s'élève désormais à 30%. Il était de 20% en auparavant et il permet à Bouygues Télécom de se retrouver dans un ratio équivalent à celui de ses compétiteurs sur le ratio de FTTH sur la totalité des bases fixes. Je passe en slide 22 pour commenter le chiffre d'affaires trimestriel avec une croissance qui est supérieure à 6% du chiffre d'affaires total au deuxième trimestre 2020. Bouygues Télécom affiche de façon quasi ininterrompue la croissance trimestrielle la plus forte du marché français depuis mi-2017. Cette performance, elle est portée notamment par la hausse du chiffre d'affaires service continu pour 20 trimestres consécutifs. Alors, cette stratégie, c'est la conséquence de la stratégie qui a été mise en place en 2015, qui a permis de réinscrire Bouygues Télécom dans une forte dynamique de croissance, et elle s'explique assez simplement par la croissance continue de la base client mobile et fixe et de la croissance des ABPU. Donc, le produit des deux va produire mécaniquement une augmentation du chiffre d'affaires. Au deuxième trimestre 2020, comme vous pouvez le voir en haut à droite de la slide, dans le petit cartouche qui est à droite, l'ABPU mobile que nous avons retraité de l'impact roaming augmente de 0,3 euros sur un an à 19,7 euros par client et par mois. L'ABPU fixe est en hausse, lui, de 1,3 euros à 27,2 euros. En dépit de la baisse du roaming, puisque le fruit du roaming n'est pas un argent qui vient des voyageurs intra-européens, mais des voyageurs intercontinentaux. Donc, comme il n'y a plus de voyages intercontinentaux, le roaming a pratiquement disparu. La croissance du chiffre d'affaires service au deuxième trimestre est restée soutenue à plus 6% sur un an. La hausse est de 11% sur le chiffre d'affaires service fixe, de 4% sur le chiffre d'affaires service mobile, et la hausse du chiffre d'affaires hors roaming facturé aux clients a plus que compensé la baisse du chiffre d'affaires roaming. On estime que l'impact en termes de chiffre d'affaires de la perte de roaming sur le T2 est d'environ 30 millions d'euros. Je passe maintenant sur les chiffres clés Bouygues Télécom, je suis en slide 23. Au total, sur le premier semestre 2020, le chiffre d'affaires service est en hausse de 8% sur un an à 2,4 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires autre est quant à lui en retrait en raison de ventes de terminaux en lien avec le confinement. L'essentiel des ventes de terminaux et d'accessoires de Bouygues Télécom sont faites au travers du réseau de boutiques, ne sont pas faites sur le canal digital. Lorsque notre réseau de boutiques est fermé, eh bien, ces ventes fondent simultanément. À 3 milliards d'euros, le chiffre d'affaires global ressort en croissance de 4% sur le semestre. Il comprend un impact de la COVID-19 qu'on vous a rappelé dans le cartouche à droite, que l'on estime sur le chiffre d'affaires à moins 70 millions d'euros et qu'on limite à 20 millions d'euros sur le ROC du fait des économies réalisées par ailleurs par l'opérateur. L'EBITDA après loyer est également en croissance à 9% pour atteindre 711 millions d'euros. Il intègre les 20 millions d'euros de coûts non récurrents associés aux dépenses de campagne de marque dont nous avions parlé lors du premier trimestre. Et puis, il a également l'impact lié à la COVID-19 que l'on estime à 20 millions d'euros au titre du premier semestre. La marge d'EBITDA après loyer s'établit, elle, à 29,6% en amélioration de 0,3 points par rapport au premier semestre 2019. Le résultat opérationnel courant, quant à lui, ressort à 253 millions d'euros. Il est en hausse de 23 millions d'euros sur un an. Il inclut 17 millions d'euros de plus-value de cession des prises FTTH liées à la co-entreprise que nous avons créée dans le cadre du projet Astérix. Je vous rappelle que le projet Astérix, c'est la création d'une entreprise qui va relouer à Bouygues Télécom les prises FTTH qui sont achetées à Orange dans les zones moyennement denses pour permettre à Bouygues Télécom d'offsetter cette partie de CAPEX et de trouver les liens FTTH sous la forme d'un loyer. Le résultat opérationnel est en repli de 26 millions d'euros au premier semestre 2020, en l'absence quasi totale de produits non courants. L'année dernière, nous avions eu des produits non courants qui s'élevaient à 50 millions d'euros, qui étaient majoritairement des cessions de sites mobiles. Les investissements bruts d'exploitation ressortent à 581 millions d'euros sur le semestre. Ils sont en hausse de 51 millions d'euros. Sur la même période, les cessions atteignent 194 millions d'euros, dont la très grande majorité est liée au projet Astérix, pour 185 millions d'euros. Je vous propose maintenant de revenir en slide 24 sur le projet d'acquisition que nous avons annoncé le 26 juin dernier. Bouygues Télécom a signé donc un protocole d'exclusivité avec Euro Information, qui est une société du groupe Crédit Mutuel, en vue d'acquérir 100% du capital de sa filiale Euro Information Télécom et de signer avec le groupe un partenariat de distribution. EIT, c'est le premier opérateur MVNO du marché français. Il est présent sur les trois marchés clés du mobile, que ce soit le grand public, le marché entreprise, le marché wholesale, puisqu'il revend à destination d'autres MVNO. Il est présent avec cinq marques distinctes et il dispose d'accords de wholesale avec Orange, avec SFR et avec Bouygues Télécom. EIT compte environ 2 millions de clients. Son réseau de distribution est notamment constitué de 4200 caisses locales du Crédit Mutuel et des agences bancaires du CIC et de 30 000 conseillers de clientèle. Alors, en slide 25, on a voulu vous rappeler l'intérêt stratégique de l'opération pour Bouygues Télécom. On est maintenant dans un contexte dans lequel le marché mobile grand public arrive progressivement à maturité et donc les croissances sur ce marché sont plus bataillées. Et donc, cette opération revêt pour Bouygues Télécom un intérêt stratégique pour au moins trois raisons. D'abord, c'est un moyen d'accélérer de façon substantielle la croissance dans le mobile et par effet de croisement des bases dans le fixe, puisqu'il sera possible de proposer la commercialisation de nos offres fixes aux clients mobiles que nous aurons récupérés. Ça permet de bénéficier d'un réseau de distribution qui est largement complémentaire, puisqu'il est 8 fois supérieur à celui de Bouygues Télécom, et permet à Bouygues Télécom d'être présent par ce réseau de distribution dans les zones dans lesquelles nous n'étions pas précédemment. Donc ce réseau est très expérimenté, très étendu sur tout le territoire. Enfin, dernier point, nous sommes dans une économie de coûts fixes et donc dès lors que l'on peut rajouter un grand nombre de clients, eh bien on améliore mécaniquement la rentabilité de l'ensemble et ça permet à Bouygues Télécom de sécuriser son cash flow libre du fait de cette industrie de coûts fixes. Alors la contribution annuelle de cette opération que nous estimons possible sur la base du scénario central que nous avons établi, nous pensons pouvoir améliorer de 200 millions d'euros l'EBITDA après loyer et générer 100 millions d'euros en cash flow libre à terme. Slide 26, on vous a rappelé la composition du tarif d'acquisition de cette base MVNO. Il comprend donc une part fixe de 530 millions d'euros qui est payable au closing et une part complémentaire qui est comprise entre 140 et 325 millions d'euros qui est payable sur 5 ans et qui est directement conditionnée au chiffre d'affaires généré par le réseau bancaire. L'opération, elle doit être finalisée d'ici la fin de l'année 2020. Il nous faut l'obtention des autorisations administratives nécessaires, c'est-à-dire celle de l'autorité française de concurrence et le résultat de la consultation des instances représentatives du personnel. Je passe maintenant la parole à Pascal Granger pour une présentation détaillée des comptes.
Merci Olivier. Je vous propose quelques explications complémentaires sur les comptes arrêtés au 30 juin. Concernant le compte de résultat en slide 28, je ne reviendrai pas sur le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel courant qui ont été déjà largement commentés. Les autres produits et charges opérationnelles ressortent à moins 44 millions d'euros au premier semestre 2020. Ce montant est en baisse par rapport au premier semestre 2019. Il inclut principalement 45 millions d'euros de charges non courantes chez Colas, en lien avec la réorganisation des activités routières en France et la poursuite des travaux de démantèlement du site de Dunkerque. Je rappelle que le résultat non courant était positif l'an dernier à 42 millions d'euros car il intégrait des produits non courants chez Bouygues Télécom liés à la cession des sites mobiles évoqués par Olivier tout à l'heure. Le coût de l'endettement financier net s'améliore de 13 millions d'euros sur un an. Cela s'explique en particulier par des charges d'intérêt sur emprunt plus faible chez Bouygues SA, lié au remboursement de l'emprunt obligataire en octobre 2019. Concernant le bas du compte de résultat, nous avons enregistré un produit d'impôt de 12 millions d'euros au 30 juin de cette année, contre une charge de 132 millions d'euros l'an passé. Le calcul fait donc apparaître un taux effectif global de 4% qui, naturellement, n'est pas significatif. Il s'explique d'une part, par le fait que certains déficits à l'étranger n'ont pas donné lieu à la comptabilisation d'impôts différés actifs, et d'autre part, par le fait que les pertes du premier semestre 2020 sont activées dans notre bilan à un taux d'imposition inférieur au taux de l'année, dans la mesure où ces pertes seront très vraisemblablement consommées à partir de 2023. Au global, le résultat net part du groupe s'établit à moins 244 millions d'euros, contre un profit de 225 millions d'euros l'an dernier. Regardons maintenant le bilan du groupe au 30 juin dont le total s'établit à 41,5 milliards d'euros contre 39,4 milliards d'euros au 31 décembre 2019. Slide 30, vous constaterez qu'à l'actif, les actifs non courants s'élèvent à 20,4 milliards d'euros en hausse de 132 millions d'euros. Deux éléments significatifs expliquent cette variation. D'une part, une augmentation de la valeur des co-entreprises et entités associées de 281 millions d'euros à 1,8 milliard d'euros. Elle est principalement liée à la valorisation pour 295 millions d'euros de la quote-part de Bouygues Télécom dans la SDAIF, la co-entreprise évoquée tout à l'heure, détenue avec Vauban Investissement Partners dans le cadre du projet Astérix. D'autre part, une baisse de 136 millions d'euros des immobilisations corporelles à 7,4 milliards d'euros, cette baisse étant principalement attribuable à Colas. Slide 31, vous voyez que les actifs courants s'élèvent à 21,1 milliards d'euros, en croissance de presque 2 milliards d'euros par rapport à la fin de l'année dernière. Tout d'abord, les actifs courants d'exploitation sont en hausse sur le semestre d'environ 870 millions d'euros. Trois éléments principaux contribuent à cette hausse. Premièrement, une hausse des autres créances chez Bouygues Télécom pour 325 millions d'euros, dont 222 millions d'euros sont liés à la SDAIF dont je viens de vous parler. En effet, le produit de cession des prises FTTH de 185 millions d'euros hors taxes, soit 222 millions d'euros TTC, a été encaissé courant juillet, donc sera enregistré au troisième trimestre et non au deuxième trimestre. Deuxièmement, une augmentation des actifs sur contrat de Colas pour 237 millions d'euros en lien avec la saisonnalité de l'activité. Enfin, une hausse des créances clients chez Bouygues Télécom pour 115 millions d'euros en lien avec la hausse du chiffre d'affaires. Par ailleurs, la trésorerie progresse de 1,1 milliard d'euros grâce notamment à l'émission d'un nouvel emprunt obligataire en avril dernier pour 1 milliard d'euros. Si on examine maintenant le passif slide 32, les capitaux propres diminuent de 349 millions d'euros à 11,5 milliards d'euros. Ils comprennent notamment le résultat net des activités poursuivies de la période pour moins de 219 millions d'euros et des autres produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres pour moins 114 millions d'euros, dont principalement des écarts de change au niveau du groupe pour moins 82 millions d'euros et des écarts actuariels nets sur pensions et indemnités de fin de carrière pour moins 32 millions d'euros. Slide 33, le passif non courant s'élève à près de 10,2 milliards d'euros en hausse de plus de 2 milliards d'euros. Les dettes financières non courantes augmentent de 2,1 milliards d'euros sur la période à 6,3 milliards d'euros. Cette hausse correspond notamment à l'émission d'un emprunt obligataire en avril évoqué précédemment pour 1 milliard d'euros, ainsi que le tirage de lignes de crédit pour 870 millions d'euros par Bouygues SA. Venons-en maintenant à l'évolution de l'endettement financier net au premier semestre 2020 en slide 34. Comme nous l'avons vu précédemment, l'endettement financier net atteint 3,9 milliards d'euros au 30 juin, ce qui représente une hausse de 1,7 milliard d'euros par rapport au 31 décembre 2019. Cette hausse se décompose comme suit. Moins 39 millions d'euros d'acquisition nette de cession, soit un montant très faible sur la période. Il s'agit notamment de quelques acquisitions réalisées par Colas. Le deuxième élément, c'est 16 millions d'euros d'opérations sur capital et divers qui comprennent des rachats d'actions, des levées de stock options et la partie résiduelle de l'augmentation de capital réservée aux salariés dans le cadre de Bouygues Confiance 11. Troisième élément, moins 5 millions d'euros de dividendes. Il s'agit des dividendes versés par les activités consolidées aux participations, ne donnant pas le contrôle. Et enfin, moins 1,7 milliard d'euros liés à l'exploitation des métiers, qui représente l'essentiel de la variation du semestre. Montant légèrement inférieur à l'an passé. Nous allons regarder en détail cette variation en slide 35. Commençons par la CAFNET. La CAFNET, y compris les obligations locatives, est de 383 millions d'euros sur le semestre, en recul de plus de 400 millions d'euros par rapport au premier semestre 2019, compte tenu de la forte baisse de l'activité et des résultats sur la période. Les investissements d'exploitation nets, quant à eux, sont en baisse de 171 millions d'euros à 607 millions d'euros. Cette variation est particulièrement visible au sein des activités de construction qui ont notamment ajusté au premier semestre leurs investissements au niveau d'activité. Par ailleurs, Bouygues Télécom a augmenté ses investissements bruts, comme nous l'avons vu précédemment, mais a également bénéficié du produit de cession de 185 millions d'euros lié à Astérix. Passons maintenant à la variation du BFR liée à l'activité. Grâce aux efforts réalisés par les métiers dans ce contexte inédit de crise sanitaire, la variation du BFR liée à l'activité au premier semestre 2020 est nettement inférieure à celle du premier semestre 2019, de près de 600 millions d'euros. Nous ne constatons pas encore, à fin juin, de déformation du BFR comme nous l'avions initialement anticipé. Ce phénomène se décale dans le temps. Pour autant, nous estimons que cette déformation sera moins importante que redoutée un temps. Pour finir, nous avons isolé ce semestre la variation du BFR liée aux immobilisations qui passe de moins 117 millions d'euros à moins 381 millions d'euros. L'essentiel de cette variation s'explique, comme nous l'avons déjà évoqué, par la cession en juin par Bouygues Télécom des prises FTTH pour 222 millions d'euros TTC, donnant lieu à un encaissement en juillet. Au final, la variation de l'exploitation est quasiment identique à celle de l'an passé, à la même période. Voilà, j'en ai fini avec la présentation de ces comptes et je vous remercie pour votre attention.
Merci Pascal. Je vais maintenant conclure notre présentation et je vous propose de passer à la slide numéro 37. Tout d'abord, je voudrais vous dire que la crise sanitaire que nous traversons et ses conséquences confortent nos choix stratégiques. Nous souhaitons en effet renforcer les métiers plus résilients du groupe, Bouygues Télécom d'une part et les activités énergie et services d'autre part. Nous voulons également poursuivre le développement de Colas en étendant son réseau à l'international par croissance externe dans des pays ciblés et en valorisant nos activités industrielles, carrières et bitumes. TF1 et Bouygues Immobilier doivent continuer leur transformation. Pour TF1, il s'agit de renforcer son positionnement dans la chaîne de valeur pour réduire sa dépendance au marché publicitaire et pour Bouygues Immobilier, redresser son activité et sa rentabilité. Enfin, nous voulons accélérer notre transformation digitale en développant des produits et des solutions innovants et en faisant évoluer nos organisations et nos méthodes de travail. Dans ce contexte inédit, le groupe reste convaincu de la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle étape de sa stratégie climat. Comme mentionné sur le document numéro 38, elle passe par la réduction de l'empreinte carbone de ses activités et le renforcement de son portefeuille de solutions bas carbone. Notre groupe confirme la définition en 2020 d'un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, compatible avec l'accord de Paris et l'établissement en 2020 d'un plan d'action pour ces 5 métiers. Pour ce qui concerne les objectifs financiers du groupe, document numéro 39, je vous rappelle qu'ils ont été annulés en avril dernier. En raison des incertitudes sur l'évolution de la crise sanitaire et ses conséquences d'ici la fin de l'année, le groupe ne fixe pas de nouveaux objectifs pour 2020. Néanmoins, grâce à la réactivité des métiers et aux mesures prises, le groupe redeviendra largement profitable au deuxième semestre 2020, sans retrouver toutefois les niveaux particulièrement élevés du deuxième semestre 2019. Bouygues Télécom, pour sa part, démontre sa résilience dans cette crise inédite. Il poursuit sa stratégie de croissance et choisit de maintenir un niveau d'investissement élevé pour renforcer la qualité de ses réseaux dans un contexte d'augmentation continue des usages. En conséquence, il revoit ses objectifs pour 2020. Sur la base des éléments connus à date, et bien sûr, hors nouvelle évolution défavorable de la situation liée à la COVID-19, il prévoit désormais une croissance du chiffre d'affaires service d'environ 4% en dépit de la forte baisse du chiffre d'affaires roaming en lien avec la crise sanitaire. Des investissements bruts pouvant atteindre 1,2 milliard d'euros, et ce, y compris les investissements nécessaires à l'intégration d'EIT et bien sûr hors fréquence 5G. Et enfin, un cash flow libre d'environ 250 millions d'euros. En conclusion, Bouygues est bien armé pour affronter cette crise inédite. Les tendances de long terme sur lesquelles s'appuie le groupe restent porteuses car chacun de nos métiers répond à des besoins essentiels. Après un premier semestre 2020 difficile, nos fondamentaux et notre stratégie devraient permettre de nous réinscrire dans une dynamique de croissance, et ce, dans nos trois activités. Je profite bien sûr de cette occasion pour une nouvelle fois saluer l'état d'esprit et l'engagement de l'ensemble des collaborateurs du groupe dans cette période particulièrement compliquée pour nous tous. Avant de passer aux questions-réponses, je vous rappelle nos prochains rendez-vous tels qu'exprimés dans la slide 41. Le 4 septembre prochain se tiendra notre Assemblée Générale pour délibérer notamment sur la distribution d'un dividende. Les résultats des 9 premiers mois de 2020 seront publiés, quant à eux, le 19 novembre 2020. Nous nous tenons maintenant, mes collaborateurs et moi-même, à votre disposition pour répondre à vos questions.
Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 sur le clavier de votre appareil. S'il vous plaît, assurez-vous que votre ligne ne soit pas en mode silence. Je vais vous avertir quand vous pouvez poser votre question. Encore une fois, c'est étoile 1 sur votre clavier. La première question vient de la ligne audio française et on a la première question de M. Frédéric Boulon de Bank of America. Monsieur, c'est à vous.
Bonjour, merci beaucoup pour prendre cette question. Deux questions de mon côté. D'abord, sur Bouygues Télécom, on a eu 10% de croissance de services au premier trimestre, 6% au deuxième trimestre. J'ai un peu du mal à comprendre votre objectif de 4%. Si je calcule bien, ça implique un chiffre d'affaires stable au deuxième semestre. Donc, qu'est-ce qui pourrait mener un tel ralentissement? Deuxième point sur les marges, si vous pouvez nous en dire un peu plus après votre commentaire sur les marges du deuxième semestre 2020. Quand on regarde les développements de l'activité en construction, est-ce que vous pouvez communiquer sur les niveaux de marge qu'on pourrait attendre en 2021? Est-ce que vous pensez être en mesure de revenir à des niveaux de marge proches de 2019? Donc, si vous pouvez nous faire un commentaire sur construction, colas et immobilier. Merci.
Sur la partie, Richard Viel, donc sur la partie chiffre d'affaires service annuel versus le premier semestre, il faut noter deux choses importantes. La première chose, c'est que le roaming au deuxième semestre est beaucoup plus important en termes d'impact que le roaming au premier semestre. Sachez qu'au premier semestre, pas d'impact sur le roaming au T1, un impact à peu près de 30 millions du roaming au T2. Il y aura un impact à peu près de 40 millions sur le roaming au T3 et le T4 compte aussi. Donc, il y aura cet écart qui va nous impacter. Et le deuxième élément, c'est structurellement dans le fonctionnement de Bouygues Télécom. C'est quelque chose que je vous avais déjà expliqué pour 2018 et 2019. C'est que Bouygues Télécom fait des stratégies de more for more de nos clients et généralement, on le fait pendant l'été à des moments assez calmes auprès de nos clients. Ce qui fait que le revenu généralement du premier semestre de nos clients est plus bas que le revenu du deuxième semestre. De ce fait, quand vous démarrez l'année d'après, le revenu du premier semestre est basé sur les résultats du semestre précédent et donc est à un niveau élevé. Cette année, malheureusement, on ne peut pas faire autant de revenus incrémentaux que les autres années de par le Covid. Donc, c'est légèrement décalé et donc ça aura un impact inférieur. Donc, les deux phénomènes, légère ralentissement du more for more et le plongeon qu'on peut avoir du roaming du deuxième semestre, va faire qu'on préfère être prudent quant à l'annonce de nos chiffres d'affaires services global de l'année. Voilà.
Merci Richard. En ce qui concerne les activités de construction, tout d'abord Olivier Roussa souhaite vous donner quelques informations.
Alors, sur les activités de construction, on a une activité qui devrait être solide au T3. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, on a rattrapé une partie de l'activité, notamment avec des moindres prises de congés qui ont été faites pendant cet été. Et on devrait avoir une activité qui continue dans une moindre mesure également au T4. Alors, quand on regarde dans le détail entre ce qui va se passer entre Bouygues Construction, Colas et Bouygues Immobilier, au T3, on pourrait être encore un petit peu impacté par la Covid-19 chez Bouygues Construction, en lien avec certains lieux dans lesquels nous n'avons pas encore pu reprendre totalement notre activité. Je pense notamment à ce que l'on a actuellement encore sur les Philippines. On vient de reprendre progressivement au mois d'août sur Singapour. Par contre, au T4, Bouygues Construction prévoit un retour à une activité nominale, sauf évidemment si on a une très forte dégradation de la crise sanitaire à l'échelle mondiale. Chez Colas, en revanche, on a une situation qui est un peu différente. On a une activité au T3 qui devrait probablement être un peu supérieure à celle du T3 2019, qui pour autant se situait déjà à un niveau très élevé puisque c'est une année préélectorale dans laquelle on a plutôt plus d'activités. Mais en revanche, et ça c'est le lien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant la nomination des exécutifs locaux pendant l'été, on devrait avoir une baisse au T4 puisqu'on a enregistré depuis le mois de juin une forte baisse du nombre d'appels d'offres publics qui sont lancés en France en termes de routes, et donc on devrait avoir une moindre activité au T4. Pour Bouygues Télécom, Richard vient de vous répondre, et pour TF1, on a une visibilité qui reste encore assez faible, et donc on a une tendance qui s'est ralentie, je vous l'ai dit, avec néanmoins un retour des annonceurs.
Ma question était sur les marges 2021.
Ah, pardon, sur les marges 2021, excusez-moi, j'avais compris que c'était sur le gros semestre. Alors, sur les marges 2021, on attend sur Bouygues Construction, en 2021, on s'attend à un retour des marges qui soit plutôt comparable à celle que l'on avait en 2019. Sur la partie Colas, du fait de la forte tension sur les appels d'offres que l'on va connaître au second semestre, sur la partie France notamment, on s'attend à un niveau de marge en 2021 qui puisse être un peu inférieur à celui que nous avions en 2019. Et on s'attend plutôt à un retour à la normale en 2022. Et pour Bouygues Immobilier, on s'attend en 2021 à une marge supérieure en 2021 à celle que nous avions en 2020, sans pour autant revenir encore au niveau de 2019, parce que nous avons eu un gros retard de validation, permis de construire, du fait du décalage qui s'est fait avec les élections municipales.
Merci beaucoup.
Merci. La prochaine question vient de la ligne du monsieur Nicolas Côte-Colisson de HSBC. Monsieur, c'est à vous.
Bonjour, merci. Deux questions de ma part. D'abord sur les télécoms, avec tous les deals infrastructures que vous avez scellés ces derniers mois, quel pourrait être l'impact sur la marge d'EBITDA sur le long terme? Vers quel niveau vous pensez pouvoir tendre du fait des OPEX liés aux locations de réseau, et ce avant la prise en compte de l'acquisition de EIT? Et là aussi, pour revenir sur les marges dans la construction, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre capacité de partager les coûts supplémentaires liés au Covid avec les donneurs d'ordre et les sous-traitants dans les prochains trimestres? Est-ce qu'il y a moyen d'estimer en quelque sorte le coût récurrent supplémentaire lié aux mesures de sécurité en termes de points de base sur la marge, encore une fois sur les prochains trimestres? Merci.
Pour la première partie de votre question, Richard Viel va vous répondre.
Donc, je vous rappelle nos ambitions que l'on a toujours eues vis-à-vis des marges et l'évolution des marges de Bouygues Télécom sur le moyen terme, c'est d'avoir une marge d'EBITDA qui est à 35%. Ça reste notre leitmotiv. Je vous rappelle que nous venions de 19, nous sommes remontés déjà à plus de 30, et donc l'ambition est en effet d'aller jusqu'à 35. Quand vous parlez des cessions, j'ai juste un commentaire à rajouter. Sachez que quand nous prenons la décision de faire un projet comme Astérix, bien, le paradoxe, c'est que à la fois nous cédons des actifs, mais en même temps, les conditions financières que l'on a sur la fibre sont meilleures que quand on était dans le cas précédent. Donc, c'est simplement pour vous montrer qu'il peut nous arriver aussi de faire des cessions dans un intérêt parfois de cash, mais aussi d'améliorer la rentabilité long terme de Bouygues Télécom.
Sur la partie construction, moi, ce que je peux vous dire, c'est d'abord, c'est très difficile de vous donner un pronostic parce que on a une partie France, une partie internationale. La partie internationale, c'est de nombreux pays. En France, on a des marchés publics dont le gouvernement a déjà pris un certain nombre de décisions sur le partage des surcoûts. Donc là, il n'y a pas d'aléa là-dessus. Et sur les marchés privés, eh bien, c'est au cas par cas, avec chaque client, que les choses se discutent. De la même manière, avec les sous-traitants ou les fournisseurs, les problèmes sont très différents suivant la nature de leurs activités. Donc moi, je suis totalement incapable de vous donner comment va se répartir les éventuels surcoûts, si tant est qu'on n'arrive pas à les répercuter. Donc pour le moment, on n'est pas capable de vous donner de prévisions vraiment fiables là-dessus. Ça n'aurait pas grand sens.
Très bien. Merci beaucoup.
Merci. La prochaine question vient de la ligne de Monsieur Stéphane Beyazian de MainFirst. Monsieur, c'est à vous.
Oui, merci. Une question sur les plans de relance. Est-ce que vous avez déjà un petit peu de visibilité, on va dire, sur le timing des appels d'offres qui seraient liés à ces plans de relance? Et pour revenir un petit peu sur les télécoms en termes de pricing, est-ce que vous pouvez faire des commentaires un petit peu sur, on va dire, l'environnement concurrentiel? Je crois que au mois d'avril, enfin, vous aviez déjà mentionné qu'il y avait peut-être un petit peu plus de compétition pendant que les magasins étaient fermés, de compétition en ligne, je veux dire. Est-ce qu'on est revenu à la normale? Est-ce qu'on est sur un environnement aujourd'hui qui est revenu assez assaini, si je puis dire? Merci.
On relance. Ben, on est comme vous. On a vu afficher des volontés européennes, américaines d'ailleurs, qui intéressent nos activités aux États-Unis ou françaises. Assez forte, avec des chiffres significatifs, mais on n'a pas encore vu de quelle manière tout cela allait s'appliquer. On n'a pas encore, nous, on ne sait pas comment les plans de relance vont être mis en œuvre, qui ils vont toucher en particulier, et donc pour le moment, nous sommes dans l'attente de ces décisions qui devraient, j'imagine, se concrétiser dans les prochaines semaines. Sur les télécoms, à nouveau, Richard Viel vous répond.
Oui, donc sur la partie télécom, ce que vous avez signifié au mois d'avril, est resté une réalité au T2. En effet, il y a eu des promotions dans la mesure où, en effet, les réseaux de distribution traditionnels fonctionnaient pas au même nominal que dans le reste. Donc le digital, etc., a pris le relais et donc, en effet, il y a eu un peu d'animation. Ce que l'on peut dire maintenant, là, au moment de presque la fin des vacances et la situation actuelle, c'est que ça revient progressivement en mode nominal. Je rappelle que d'ailleurs, ça ne concerne que la partie low-end du marché, dont la partie avec la moindre valeur. Mais sachez qu'on était parti historiquement à des promotions à 5 euros, on était monté à 10, puis à 12, on était remonté à 14, redescendu à 12. J'ai le sentiment que là, on se redirige vers du 14 euros. Donc ça va plutôt dans le bon sens sur le low-end. Quant au high-end, la bonne nouvelle, ce qu'on vous a exprimé, c'est que la réouverture des boutiques a été un succès et que les gens sont revenus en magasin pour avoir des services premium, pour avoir aussi des mobiles premium, et donc l'engouement ne se démord pas. Et je crois que potentiellement l'arrivée de la 5G va encore faire continuer ça, puisqu'il faudra changer les mobiles dans ce contexte.
Merci.
Merci. On va maintenant passer aux questions de la ligne anglaise.
The next question comes from the line.
La question vient de Jacob Bluestein de Crédit Suisse. Vous avez la parole. Bonjour. J'ai deux questions. Tout d'abord, toujours sur la question du premium contre le low-end, vous avez dit que ce mix entre les deux était relativement stable dans les télécoms. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quel est justement ce mix entre le premium et le low-end et comment il a évolué au cours des dernières années? Ça, ce sera la question numéro un. Deuxième question, est-ce que vous pourriez donner des précisions ou des attentes sur le capital en networking pour cette année?
De quoi?
Okay, so I try to be sure that I will understood your questions.
vais essayer de comprendre votre question concernant le premium contre le bas de gamme. D'une part, je peux vous confirmer que la partie premium reste stable, la situation est stable. On parle souvent de 50-50 entre le premium et l'entrée de gamme. Mais il faut se rendre compte qu'en dehors de ces chiffres, en termes de valeur, le premium, c'est 75% de la valeur. Voilà pourquoi nous avons nos boutiques. Voilà, nous avons donc des chargés de clientèle. C'est pour créer des relations dans la partie premium. Maintenant, votre question concernant le BFR, le CAPEX. Tout ce qu'on vous a dit, c'est qu'en 2020, ce sera environ 1,2. Parce qu'à la fin, il faudra intégrer UIT, mais à l'horizon 2021, on ne sait pas exactement ce qu'il en sera. Ça dépend de deux éléments, bien sûr. L'intégration de UIT, d'une part, mais également, il faut regarder comment intégrer UIT. Et deuxièmement, il y a l'accélération du 5G sur le marché. Et là, vraiment, je ne peux pas vous donner d'indication concernant 2021. Je crois qu'il faut être un peu plus patient. Juste pour enchaîner, je voulais quelque chose sur le BFR net. Est-ce que vous pourriez me dire quelque chose sur le BFR net pour l'année? Je parlais donc de BFR, besoin de fonds de roulement net sur l'année. Vous parlez de la marge brute nette?
Non, du working capital à l'échelle du groupe, en fait. Working cap.
Alors, vous voulez donc au niveau du groupe, hein, je posais la question du BFR net pour le groupe WIG. Voilà ma question.
Essentiellement les activités de construction basées sur les expériences des années précédentes. Alors, je vous rappelle qu'en début d'année, on avait donné une guidance de cash flow après BFR qui anticipait le travail que nous avions engagé avec les équipes de construction notamment pour améliorer ce BFR. Est arrivée la crise Covid, la crise sanitaire, et nous avons un temps imaginé une très forte dégradation de ce BFR au premier semestre liée aux baisses d'activité, aux fluctuations d'activité que nous avons eues sur nos activités construction. La très bonne nouvelle des comptes que nous vous présentons aujourd'hui, c'est que cette forte dégradation du BFR, elle ne s'est pas produite au premier semestre. Le BFR s'est dégradé au premier semestre parce que les activités de construction se dégradent toujours pour des effets de saisonnalité au premier semestre. Ceci étant, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, le BFR lié à l'activité, lui, il s'est moins dégradé que l'année dernière et c'est donc la première bonne nouvelle. Donc la question que vous posez, c'est sur la fin de l'année, je l'ai bien compris. Ceci étant, précisément, nous n'avons pas d'expérience de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas redonné de guidance sur ce sujet-là. Nous pensons qu'une partie de la déformation que nous imaginions pour le premier semestre, qui ne s'est pas produite, se produira au deuxième semestre, mais dans une mesure moindre que ce que nous avions imaginé au moment du début de la crise sanitaire, c'est-à-dire en avril.
Thank you. That's perfect. That's very helpful.
Merci beaucoup, c'est très utile.
La question. Bonjour, je vous ai parlé des marges de l'activité construction. Vous pensez revenir à la normale en 2021, de retour aux marges de 2019. Et que pour Colas, vous avez annoncé un retour à la normale pour les marges en 2022. Mais quand on regarde les marges actuelles pour la construction et pour Bouygues Construction et pour Colas en 2019, on voit que ces marges étaient relativement faibles, à environ 3%. Et par le passé, vous aviez évoqué des niveaux d'environ environ 4%, aussi bien pour Colas que pour Bouygues Construction. Est-ce que vous pensez toujours que cette marge normalisée à 4% est réaliste, est atteignable, et dans quelle, disons, échéance, dans quel calendrier? Deuxième question concernant la guidance sur le free cash flow chez Bouygues Telecom, que vous avez ramené à 250 millions d'euros, ce qui reflète le niveau plus élevé d'investissement, de dépenses de CAPEX. Mais pour avoir un objectif de EBITDA sur les 250 millions, vous avez un CAPEX d'un milliard avec des coûts financiers plus faibles et les impôts de l'ordre de 150-160 millions, ce qui semblerait indiquer que l'EBITDA devrait reculer d'une année sur l'autre sur la deuxième, sur le H2, sur le S2. C'est ce que vous prévoyez effectivement, ou bien est-ce que vous croyez qu'il y aura d'autres éléments dans la guidance du free cash flow dont nous devrions tenir compte?
Olivier Roussat va vous répondre.
Donc sur les activités de construction, je vous rappelle que les normes, enfin les marges normatives que l'on annonce pour nos métiers, on considère que la marge normative de construction se situe aux alentours de 3,5%, et on considère que la marge normative de Colas est un peu supérieure aux alentours de 4%. Mais en revanche, on considère que les activités de Colas et de construction n'ont pas les mêmes niveaux de marge normative. Les marges normatives de Colas sont tirées par les activités industrielles que sont les carrières et la partie bitume, qui permettent d'avoir un niveau supérieur à la pure activité travaux. Sur l'activité de Bouygues Telecom, on imagine un EBITDA qui soit effectivement supérieur en 2020 à ce qu'il était en 2019. Et on ne vous a pas donné de guidance dessus. Donc je ne vais pas vous en donner.
On the telecom part, so about the...
Sur la partie télécom, alors vous avez le sentiment que l'EBITDA serait peut-être plus faible au S2 plutôt qu'au S1, ce n'est pas le cas. Il faut bien comprendre qu'au S1, nous avons la concentration de tous les impôts qui nous tombent dessus, et c'est pour toutes ces raisons que nous sommes toujours confiants qu'au S2, l'EBITDA sera plus élevé qu'au S1. Oui, mais je disais que les 250 millions de free cash flow annoncés supposaient que l'EBITDA serait plus faible qu'au S2 2019. Et vous dites que ça ne sera pas le cas. Ben, il faut quand même se rappeler qu'au S2, il y aura bien sûr l'incidence du roaming qui sera beaucoup plus lourde, et c'est la raison pour laquelle que sur la partie cash flow il y aura une incidence. Mais l'autre raison, c'est que les investissements seront maintenus et élevés sur le S2, et là évidemment il y aura une accélération qui sera possible au S2 qui n'était pas possible pendant le S1. Il faut également se rappeler que nous intégrons EIT pendant cette période avec des investissements qui doivent être également associés afin d'assurer une meilleure intégration. C'est pour toutes ces raisons que l'on a cette incidence sur le free cash flow. Mais sur les marges normatives chez Bouygues Construction, j'ai pas très bien compris. Et vous avez un calendrier pour arriver à ces niveaux normatifs? Au début, vous parlez du moyen terme, c'est-à-dire dans 2 ou 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous donner une échéance pour atteindre ces marges normatives, ou bien il y a trop d'incertitudes actuellement?
Je vous ai dit tout à l'heure que sur la partie Colas, on considérait que les marges normatives ne sont pas atteignables avant 2022 du fait de la tension sur le marché, et notamment de ce qui se passe en France, sur lequel il y aura beaucoup moins d'appels d'offres, donc les marges vont être tendues en attendant que l'activité redémarre. Et ça, c'est le phénomène qu'on observe traditionnellement dans les années qui sont... les années électorales, des élections municipales. Il se trouve que cette année, l'impact dure beaucoup plus longtemps dans la mesure où les exécutifs n'ont été constitués que cet été. Sur la partie Bouygues Construction, je vous ai dit qu'on visait en 2021 de revenir à la situation de 2019. Quand je parle de 2019, je parle de la situation de Bouygues Construction hors énergie et services, sur lequel on a des niveaux de marge normative de l'activité que l'on peut faire sur la partie Bouygues Construction. Donc je maintiens ma réponse.
Thank you very much.
Je vous remercie.
The next question comes from the line of Giovanni
Montalfi de UBS.
merci. Je me demande si vous pourriez partager avec nous quelques idées sur où on en est avec Huawei en France. Je voudrais mieux comprendre quel pourrait être l'impact pour Bouygues Telecom et quel est votre plan d'action en la matière. Bien, concernant Huawei, vous avez entendu donc l'annonce de l'OMSI. Vous savez que nous sommes dans une situation où nous avons 4 villes dans lesquelles nous devons modifier nos équipements à court terme, en l'occurrence en 2021. Quant à 2023, nous avons 4 grandes villes supplémentaires qu'il faudra swapper avec un autre fournisseur. Et ensuite, il y a une demande concernant 9 villes en 2025 et une dernière demande par rapport au reliquat à l'horizon 2028. Ça veut dire qu'au niveau de Bouygues Telecom, sur cette période de 8 années, nous devrons adapter notre réseau en remplaçant environ 3000 sites. 3000 sites sur 8 ans, ça nous paraît raisonnable. Il est probablement que ces équipements peuvent être réutilisés d'une certaine manière. Donc on ne parle pas d'un impact important. Ça répond à votre question ? Merci, je vous remercie.
Merci. La prochaine question vient de la ligne audio française de M. Joseph Pujol de Kepler. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonjour. J'avais 3 questions. La première, c'est sur les plans de relance. Vous mentionnez qu'il y aura une forte composante transition énergétique. Est-ce que c'est quelque chose qui vous amène à être plus ambitieux dans la partie énergie et services? Est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le chiffre d'affaires que représente cette sous-division de la construction? Est-ce que vous êtes plus ambitieux pour l'avenir? Vous seriez prêt à faire plus d'acquisitions là-dessus? Ma deuxième question est sur ce que vous avez dit, vos intentions sur Bouygues Telecom, accélérer la croissance. Vous parlez bien de nouvelles initiatives post l'acquisition de EIT, et on parlerait plutôt de particuliers ou plutôt le marché d'entreprise. Et j'ai une troisième question. Si vous pourriez nous dire quels étaient en juin les niveaux d'activité versus 2019. Est-ce que c'était 5% de moins, 3% de moins, 10% de moins? Vous dites que c'était presque le même niveau, mais un peu moins. Je pense que la question est importante parce que, d'un autre côté, vous dites qu'en juin, vous avez été profitable. L'idée, ça serait de savoir si vos activités construction, quand vous êtes à moins 5 ou à moins 10, vous êtes déjà ou pas au break-even. Merci.
Première partie de votre question, les plans de relance et puis la transition énergétique. Philippe Bonnard, le président de Bouygues Construction, va vous répondre.
Oui, nous préparons depuis maintenant quelques années à cette évolution du marché et nous voyons bien sûr d'un très bon œil arriver ces plans de relance qui seront axés sur tout ce qui concerne la décarbonatation. Nous avons acquis énormément de savoir-faire dans les différents domaines liés aux énergies nouvelles, que ce soit l'éolien, les fermes solaires et tout ce qui concerne les usines de cogénération, les usines de biomasse et l'ensemble d'usines de production électrique à faible émission carbone. C'est le sens aussi de l'acquisition que nous avons réalisée avec Kraft & Lagen en Allemagne, où un programme de remplacement de centrales à charbon se développe. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, nous avons livré cette année une très, très grosse usine à Kiel, dans le nord de l'Allemagne, pour remplacer une usine centrale à charbon. Donc, nous sommes prêts pour l'ensemble de ces plans de relance. Bien sûr, tout ce qui tourne autour de la construction durable, de la construction bois, font partie également des compétences que nous avons renforcées ces dernières années. Sur la question du volume que représente énergie et services, aujourd'hui, nous tangentons les 4 milliards d'euros. Donc maintenant, Bouygues Construction est équilibré entre des activités de bâtiments, 4 milliards, des activités d'infrastructures, 4 milliards, et des activités d'énergie et services, 4 milliards. Et comme il a été dit précédemment, nous visons à nous renforcer encore dans ces activités d'énergie et services.
Télécom, Richard.
Oui, donc Bouygues Télécom a mentionné le fait qu'en effet, il allait pouvoir accélérer sa croissance. Donc nous avions initialement démarré des approches vis-à-vis du B2B avec l'acquisition de Keyyo, qui aujourd'hui produit une partie de cette croissance dans le small et le medium business. Nous avons aussi l'intégration de Nérim et nous sommes en train de déployer des solutions qui vont dans le cloud pour le B2B. Et maintenant, surtout avec EIT, nous avons une nouvelle ambition. Alors, pourquoi on a une nouvelle ambition? C'est que, je rappelle, EIT nous donne accès, bien sûr, à 2 millions de clients mobiles pour nous, incrémental, mais aussi, il nous donne accès à 4200 agences dans le deal que nous avons fait et 30 000 conseillers. Et nous avons l'ambition, non seulement de passer de 2 millions de clients mobiles à long terme, à probablement monter à 3 millions de clients mobiles avec eux, mais c'est surtout aussi développer deux autres axes, l'axe du fixe, qui n'est pas déployé à ce jour, sur lequel nous avons des ambitions fortes. Bon, à titre indicatif, je rappelle que Bouygues Télécom a 12 millions de clients mobiles et 4 millions de clients fixes. Ça vous donne une idée de la potentialité que pourrait apporter EIT. Et enfin, sur la partie small and medium B2B, puisque le CIC a une caractéristique très particulière, il est en relation avec 40% du marché des PME françaises. Et donc ça aussi, c'est une deuxième axe de développement complémentaire au programme initial d'EIT.
Concernant l'activité, quelques informations sur juin, je pense que Olivier Roussat peut vous donner quelques précisions.
Sur le mois de juin, quand on regarde l'activité que nous avons eue, alors si je fais déjà le focus sur la partie française, on avait en fait quasiment la totalité de nos activités qui étaient pratiquement dominantes, c'est-à-dire qu'on était plutôt à 98% d'activité globalement, que ce soit sur la partie Colas, la partie Bouygues Construction et la partie Bouygues Immobilier. Ça, c'est sur la partie française. Quand on reprend du recul et qu'on regarde à l'échelle internationale, la partie Colas se trouvait relativement nominale à l'échelle mondiale et la partie Bouygues Construction se trouvait encore pénalisée par quelques pays. Je l'ai dit tout à l'heure, il y avait encore Singapour qui était pénalisé au mois de juin. On avait les Philippines qui étaient déjà un peu pénalisées. Donc, dans l'ensemble, on peut considérer que sur le mois de juin, nous avions une activité qui était seulement peut-être 1, 2, 3% inférieure à ce qu'elle était en nominal, c'est-à-dire qu'elle était quand même quasiment normale.
Merci beaucoup.
Merci. Avant de passer à la prochaine question, je voudrais rappeler les participants que vous pouvez appuyer sur étoile 1 pour poser votre question. La prochaine question vient de la ligne du monsieur Thomas Coutry de Bryan Garnier. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonjour. J'ai deux questions sur les télécoms, s'il vous plaît. La première, sur quelques chiffres, je voulais revenir sur le montant des investissements sur H1. À la différence de beaucoup d'autres opérateurs, vous êtes plutôt en hausse des investissements bruts sur H1, malgré un ralentissement de l'activité lié au Covid. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes sur cette tendance d'investissement et pourquoi on ne voit pas les impacts, en effet, d'un ralentissement? Et puis, sur un autre chiffre, sur les revenus autres, c'est-à-dire hors service sur les télécoms. Là aussi, sur Q2, vous êtes en hausse assez significative par rapport à l'année dernière sur Q2, alors que, et on l'a bien vu sur Q1, les effets de l'impact Covid devraient provoquer une baisse significative liée aux moindres ventes de terminaux. Donc, je voulais comprendre pourquoi cette hausse sur cette ligne-là, sur Q2. Et deuxième question, je voulais revenir sur l'acquisition de EIT. Donc, en effet, vous avez rappelé que vous étiez aujourd'hui, on va dire, plus fort en mobile qu'en fixe, en tout cas en proportion de base, que vous aviez par ailleurs des investissements, on en parlait à l'instant, toujours soutenus. Bon, il y a Huawei, il y a évidemment la 5G qui arrive, il y a la fibre qui continue. En termes d'allocation du capital, le fait d'investir dans EIT, ça traduit quoi? Une préférence pour investir dans les clients et dans la base client plutôt que pour investir dans les infrastructures? J'aimerais savoir voilà, comment vous avez approché ce trade-off. Et puis sur EIT, du coup, j'avais une autre question. Est-ce qu'il faut voir arriver une nouvelle marque que vous allez conserver à terme avec EIT, ou est-ce qu'il faut s'attendre à une migration de ces clients-là vers votre base, vers vos offres Bouygues Télécom? Merci beaucoup.
Je vais passer la réponse de M. Richard Viel. Je voudrais préciser que nous, l'acquisition d'EIT, elle se situe dans une stratégie de croissance. Je rappelle que Bouygues Télécom fait partie d'un groupe, le groupe Bouygues. On a une situation financière extrêmement saine globalement. On traverse la crise de manière tout à fait, je dirais pour le moment, tout à fait sereine. Et il nous a semblé que EIT était une vraie opportunité de croissance. Nous n'avons pas cherché à investir à l'étranger. On a toujours dit que nous souhaitions nous concentrer sur le marché français dans tous les domaines, que ce soit le mobile, le fixe, le B2B. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que s'inscrit cette stratégie de IT. En ce qui concerne Bouygues Télécom, vous l'avez vu, c'est une société qui est saine, qui n'est peu endettée, qui est détenue très majoritairement par Bouygues, et donc la situation de Bouygues permet d'investir. On investit dans la crise parce qu'il nous semble que c'est nécessaire, crise ou pas crise, de continuer à renforcer nos moyens de production de manière à améliorer la qualité de notre service et à le déployer de manière plus intense. Pour le reste de la réponse, je vais laisser Richard vous apporter.
Oui, donc EIT nous permet d'avoir des clients supplémentaires, mais en effet, EIT, c'est 6 marques aujourd'hui. Hein. Donc vous avez Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, vous avez Auchan, vous avez Cdiscount, vous avez Énergie. Donc vous voyez, c'est un panel de marques. Bon, nos accords potentiels avec EIT sont de laisser certaines marques, en particulier les marques bancaires, continuer un certain temps, mais petit à petit être remplacées et suppléées par la marque Bouygues Télécom. Quant aux marques filles, ce que j'appelle les marques filles, Énergie, Cdiscount, Auchan, etc., bon, ça, on va regarder la potentialité de les garder en termes de diversification ou de les ramener sur la marque Bouygues Télécom. Ça fait l'objet de réflexions. Nous n'avons pas tranché à ce jour, mais nous aurons la possibilité éventuellement de les utiliser. Donc ça, c'était pour EIT. Les investissements de Bouygues Télécom, je rappelle que la volonté de Bouygues Télécom, c'est en effet d'investir, mais d'investir pas pour investir, c'est d'investir pour apporter à nos clients une qualité de service. En apportant à nos clients une qualité de service, on vous présente dans ce domaine une croissance qui est la meilleure du marché à ce jour. On n'a pas les résultats de Free, mais en ce qui concerne la croissance mobile de Bouygues Télécom sur le premier semestre, vous avez les chiffres. Si vous prenez ceux d'Orange, ils sont légèrement négatifs. Et si vous prenez ceux d'SFR, qui est théoriquement beaucoup plus gros que nous, ils sont 30% de moins que nous en croissance. Donc notre stratégie de choisir une qualité d'expérience pour avoir des clients est la bonne. Donc oui, on investit parce qu'on veut amener cette qualité. Et cette qualité nous amène plus de clients. Donc c'est une approche, c'est un cercle vertueux dans lequel nous continuons et nous pensons que c'est gagnant-gagnant. Alors je rappelle aussi que paradoxalement, la période du Covid et les périodes en ce moment ont démontré que le besoin de capacité était supérieur et que les usages ont monté. On est monté jusqu'à plus de 12 gigas, on est redescendu à 11 et quelques après le Covid, là, donc c'est revenu un peu plus nominal, mais pendant cette période, l'aspiration à utiliser les services de télécommunications mobiles ont été importants. L'aspiration à avoir de la fibre s'accélère. Là aussi, nous voulons être un acteur majeur et de ce fait, c'est vrai, nous investissons. Mais on pense que c'est à bon escient et c'est ça ce qui nous permet d'avoir la croissance. L'idée de dire « j'investis plus pour garder la croissance » est un truc dans les télécoms, ça ne marche pas. Donc nous, on croit sur nos modèles dans lesquels on est. Enfin, en ce qui concerne les revenus autres que vous évoquez sur Bouygues Télécom au premier semestre, bon, sachez que vous savez qu'on a eu un impact très fort jusqu'au mois de mai sur tout ce qui est terminaux et accessoires. Et depuis la réouverture, ça s'est amélioré légèrement. Mais vous devez aussi intégrer dans nos comptes le fait qu'au deuxième trimestre, il y a un petit complément qui est apparu sur la partie chiffre d'affaires, mais qui est aussi dans les coûts, puisque la création de la filiale avec Saint-Malo a entraîné un chiffre d'affaires qui est apparu de l'ordre de 60 à 70 millions, qui est apparu là, à ce moment-là, et qui est donc on va mettre en face de ce que vous avez pu observer en T2. Voilà.
Merci beaucoup, c'est très clair.
Merci. La prochaine question vient de la ligne de Monsieur Eric Lamarié de Bryan Garnier. Monsieur, c'est à vous.
Oui, bonjour, merci de prendre mes questions. J'en avais trois. La première sur très rapide sur Bouygues Énergie et Services. Vous avez donné quelques chiffres, mais est-ce que vous pourriez donner la performance de Bouygues Énergie et Services sur le premier semestre, notamment en termes de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle? On a observé notamment chez vos concurrents Vinci Énergie et Eiffage Énergie des bons chiffres, enfin des chiffres en relatif plutôt résilients sur le premier semestre. Est-ce que c'est le cas également pour Bouygues Énergie et Services? Une deuxième question sur Bouygues Immobilier. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les actions que vous allez entreprendre pour redresser Bouygues Immobilier? Vous en parlez dans la slide, vous en avez parlé à l'oral et vous en parlez dans la slide 37. Peut-être pour comprendre un peu comment ça va se passer. Et une troisième question plus ouverte sur la digitalisation dans les métiers de la construction. Est-ce que vous pensez que la situation actuelle, donc la pandémie, va accélérer d'une certaine manière le développement d'outils et de solutions digitales sur les chantiers de construction? Merci.
Philippe Bonin va vous répondre sur la question Bouygues Énergie et Services.
Sur le pôle énergie service, l'activité donc à fin juin est de 1,6 milliard et pour un résultat opérationnel de moins 1,8%.
Sur la partie Bouygues Immobilier, Pascal Minot.
Donc pour la partie Bouygues Immobilier, effectivement, un certain nombre d'actions en cours qui vont porter tant sur la relance du développement, donc se positionner sur davantage de fonciers pour développer davantage de projets. Donc ça passe par un certain nombre de mesures qui vont de la relation grand compte, de la mise en œuvre d'outils d'intelligence et d'intelligence artificielle pour améliorer et accélérer le développement, la maîtrise foncière, et puis davantage de présence également probablement auprès des vendeurs, qu'ils soient publics ou privés. C'est le premier point. Ça, c'est développer l'activité. Deuxième point sur la rentabilité, c'est de travailler à la fois sur le produit, la valeur du produit, et donc on a un certain nombre d'ateliers en cours, et puis bien sûr sur les coûts de réalisation, la standardisation, les achats, la préfabrication, qui sont autant de leviers pour baisser ces coûts de réalisation. Dernier point, bien sûr, travailler sur nos frais de structure, c'est l'hygiène d'entreprise que l'on fait également.
Sur votre troisième question concernant le digital dans la construction, moi, je vais vous dire, nous avons depuis très longtemps beaucoup travaillé sur ces sujets. Alors, c'est la maquette numérique qui est maintenant très largement déployée, c'est les moyens de communication. Et puis, vous vous souvenez que nous avons vécu chez Bouygues Construction un virus informatique violent en début d'année qui a eu évidemment un impact sur nos comportements. C'est-à-dire que il a fallu restaurer l'usage de nos outils, redonner confiance à tout le monde dans le système, et puis surtout le fiabiliser. Donc tout ça est un travail permanent. Il n'en reste pas moins vrai que dans les activités de construction, le télétravail ne s'applique pas vraiment au chantier. Il va quand même falloir avoir sur place du monde pour faire monter les murs et les poteaux, faire des planchers, etc. Mais le télétravail est quand même une solution qui nous a permis, pendant la crise, de pouvoir faire un certain nombre de choses, notamment dans le domaine commercial, par exemple, où nous avons continué, évidemment, à travailler et à prendre des commandes. Donc le digital dans la construction, c'est quelque chose sur lequel nous travaillons beaucoup. On a fait beaucoup de progrès, mais on en a encore, évidemment, à faire, et notamment dans le domaine de la fiabilité. Je pense que Bouygues Construction, je le répète, a été touché par un virus. On n'est pas les seuls, malheureusement, à avoir vécu ce genre de mésaventure. Mais en tout cas, ça nous a servi de leçon pour faire de gros efforts en matière de fiabilité. Je ne sais pas si Philippe Bonin, ou Frédéric Gardès veulent leur ajouter quelque chose.
En matière de numérique, je tiens à signaler que nous avons lancé un grand projet avec notre partenaire Dassault System, pour faire quelque chose de totalement original qui n'existe pas dans la profession, qui doit déboucher sur une plateforme numérique de projet et nous avançons main dans la main avec Dassault sur ce projet qui est un projet long terme et captivant.
Merci beaucoup.
La crise a en effet accéléré la digitalisation et nous avons la particularité, vous connaissez le BIM, nous sommes depuis plusieurs mois sur ce qui s'appelle le CIM, qui est le City Information Modeling, qui est l'étape d'après. Et dans, en particulier, les infrastructures telles que nous les faisons, de pouvoir mapper tous les réseaux, etc., c'est quelque chose que nous faisons depuis longtemps et qui doit nous permettre derrière d'avoir un avantage, puisque cette connaissance détaillée des réseaux nous permettra de faire une certaine différence.
Olivier Roussat veut faire quelques commentaires.
Je voulais juste rajouter un commentaire sur l'énergie et services dans les bases de comparaison vis-à-vis de nos pairs. Pour revenir sur le premier élément de réponse que vous avez donné, Philippe, il faut comprendre que l'exposition d'énergie et services pour Bouygues est quand même, on est très exposé à la partie française qui a beaucoup souffert de la partie confinement. On est très peu présent en Allemagne. Kraftanlagen, quand on regarde les résultats de Kraftanlagen, il est relativement immune à ce qui s'est passé sur la crise. Et donc, quand on se compare avec des gens comme Vinci Energy et l'exposition qu'ils ont dans des pays comme la Scandinavie ou l'Allemagne, c'est des géographies dans lesquelles on est peu présente ou pas présente. Et donc, il y a un effet de base de comparaison qui est évidemment extrêmement négatif dû au fait que ces pays-là ont traversé les confinements de façon bien plus souple que la partie française.
D'accord. Merci beaucoup. Et en termes de marge opérationnelle, donc là, vous faites moins 1,8% sur le S1. Et comme vous avez fait des commentaires sur les autres métiers de la construction, est-ce que vous pensez retrouver le niveau de marge opérationnelle de Bouygues Energies et Services de 2019 l'année prochaine, en 2021, ou est-ce que c'est trop ambitieux?
L'objectif que l'on a sur Energies et Services, c'est une opération qui est assez progressive, hein, puisque avant la pandémie, on vous avait dit d'ailleurs en début d'année que quand on prend énergie et services, nous ne sommes pas aux standards de la profession. Les standards de la profession sont les standards de 4 à 6 %, on en est loin, et donc on a une démarche progressive pour revenir vers ces niveaux de marge. Notre objectif, c'est déjà d'avoir un point de passage en 2021 dans lequel on retrouve ce que l'on faisait en 2019, mais ça n'est pas suffisant, il faudra continuer de monter en 2022 et 2023 pour aller chercher les standards de la profession.
Merci, c'est très clair.
Merci. Il n'y a plus de questions de la file d'attente. Dernier rappel, si vous souhaitez poser une question, appuyez sur étoile 1 sur votre clavier. Merci. Donc, il n'y a plus de questions de la file d'attente.
Merci encore d'avoir assisté.
S'il vous plaît, monsieur. Non, c'est bien.
Merci encore d'avoir assisté à cette conférence téléphonique de présentation des résultats semestriels du groupe Bouygues. Nous publierons nos résultats des 9 mois le 19 novembre prochain. Dans l'intervalle, n'hésitez pas à contacter notre équipe Relations Investisseurs, dont vous trouverez les coordonnées dans le communiqué de presse et sur nos sites Internet. Excellente journée à vous tous et merci.
Merci d'avoir participé à la conférence d'aujourd'hui. Vous pouvez maintenant raccrocher. Les organisateurs de la conférence, s'il vous plaît, restez connectés.